c'est l'expérience du temps et de la mémoire. On peut continuer à vivre en mettant son enfance de côté, un jour, on y revient. La romancière et auteure dramatique Sedef Fesser a vécu une enfance pas comme les autres. Dans les années 70, elle est sur les plateaux de cinéma turc. Elle a été ce qu'on appelle une enfance star. Donc, les images existent, il suffit de se plonger dans l'archéologie. C'est l'âge d'or à Istanbul-Hollywood. Petit à petit, elle retombe sur les scènes de la vingtaine de films dans lesquels elle a tourné. Mais pour reconstituer l'histoire, il lui faudra mener l'enquête dans les souvenirs de tous ceux qui l'entourent. Sedef Fesser part avec Céline Terce à la recherche de cette époque révolue et d'une version de son pays qui aujourd'hui n'existe plus.
Her şey yerli yerinde duruyor. Sanki aradan yıllar geçmedi ve ben buradan hiç ayrılmadım. Ben hayır düşünmeyeceğim, hazırlamayacağım. Yoksa bütün bu
geçmişi... Murat abi, annen hastalığında evde de ilaç yok.
Yavaş sür, kaza yapacaksın.
Senden çabuk kurtulmanın tek yolu gideceğim yere bir an evvel varmaktır.
Seni kolay bırakacağımı zannediyorsan yanılıyorsun Şükran. Ben verdiklerimi almadan bırakmam. Eğer güçlükle karşılaşırsam zorla almasını...
Hello.
Bah là, grande affiche jaune, avec au second plan des gens qui tiennent des flingues, une fille sexy au premier plan, et maman qui joue la peur, l'étonnement au premier plan et qui a très peur. Et ton nom qui est écrit en plus grand quand même.
Küçük yıldız, la petite étoile, c'est Defesa.
Enfant star. À Istanbul Hollywood.
Dediğim adam çok çapkındır, içki içer egoist. Biraz oynak, biraz aylak, vazgeçemem ben ondan. Sevdiğim adam aldatıyor, kandırıyor baş takız. Dostlarıyla soğuklaşıyor, vazgeçemem ben
Le 15 juillet 2016, je suis au Festival d'Avignon. C'est un moment merveilleux. J'ai deux textes qui sont présentés dans le programme officiel, je travaille avec des artistes formidables, bref, je suis ravie. Sauf que le soir, après la répétition, quand j'arrive dans ma chambre d'hôtel, je commence à recevoir des messages de Turquie, mon pays d'origine. Je vais sur le Twitter turc et là, j'y vois des images ahurissantes. Des avions F-16 qui survolent Istanbul, des bagarres de rue, des chars. On a vraiment l'impression que c'est une ville en guerre.
Şu an bir bomba atıldı.
Adamın ayağı gitti.
Ambulanslar var. Meclise ambulanslar giriyor.
Paniqué, je passe des coups de fil à mes proches. Alo.
Alo canım.
Canım anneciğim ne oldu ya? Darbe mi oldu? Ne oluyor?
Aa evet.
Ça va maman?
Sorma Sedef'cim sorma.
Oui. Ne t'inquiète pas.
Mais t'es où là?
J'étais avec des amis au restaurant et on est rentré fissa dès qu'on a su.
Mais qu'est-ce qui se passe?
Un groupe dans les forces armées aurait organisé un coup d'état, mais ça aurait échoué.
Un coup d'état?
C'est ce qu'on raconte.
Mais comment est-ce possible?
Mais tout est possible ma chérie. Tu sais... J'en ai vu plein dans ma vie. En comptant les mini-putsch, je dois en être à 5 ou 6. C'est fréquent dans la région.
Oh, c'est horrible.
Bon, tu verras. Ce sera difficile quelques mois, et puis on oubliera, comme à chaque fois.
Les semaines qui suivent le coup d'État avorté, c'est une attente interminable. Il y a des milices armées dans les rues, on entend des théories de complot partout, chacun a peur de son voisin, et ça me rend dingue. Allô?
Allô?
Canım, anneciğim, nasılsın? Bonjour, maman.
Comment va-t-il, ma chérie?
Mal.
Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe?
Un truc étrange. Je suis tellement angoissée avec tout ce qui se passe que c'est comme si mon cerveau me jouait des tours.
Des tours? Mais
j'ai tout le temps des flashs, tu vois, comme des flashbacks de cinéma. Des moments anciens, mais anodins, des petits instants insignifiants de l'enfance que je croyais avoir oubliés. Parler français me pèse, j'arrive pas à m'exprimer, je cherche mes mots. Quand je cherche un mot en français, c'est le mot en turc qui me revient en premier. C'est bizarre.
C'est étrange,
ah, je rêve aussi des scènes de films. Je te jure, c'est dingue. Je rêve de toi et de papa, jeunes, sur les plateaux de tournage, des comédiens d'époque.
Mais tu deviens folle, ma fille.
C'est pas impossible, tu vois.
Va voir un psy. C'est certainement le stress post-traumatique.
Oui.
Bilirsiniz ben karım, kış gelince yarım. Sırtımdaki ak tülle kainatı boyarım.
Je me rends compte que j'avais volontairement occulté mon enfance, désactivé une case de mon cerveau. Et j'avais l'impression que tout ce que j'avais mis de côté était en train de revenir. J'avais changé de langue d'écriture, j'avais échangé ma langue maternelle contre ma langue d'accueil pour raconter des histoires. Et là, tout ce qui était lié à ma terre natale se vengeait en quelque sorte. Mon enfance envahissait cette nouvelle vie française que j'avais construite. Comme un site archéologique qui serait resté englouti sous les eaux pendant des siècles et qui soudain réapparaîtrait intact.
Sarardı soldu rengin, artık bizden değilsin. Seni
bak bak Ayşecim rengini ver dedi, öteki kızlar çekemeyler onu.
Alors voilà, je décide finalement d'entamer une analyse, une thérapie. Soudain, j'ai besoin de ça et je tombe sur Barbara, dont la spécialité est la biculturalité. Elle est biculturelle elle-même et du coup, voilà, on travaille pendant 2 ans sur cette quête pour peut-être retrouver aussi cette enfance perdue. Et justement, je viens aujourd'hui voir Barbara et j'avais envie de lui amener des images parce que pendant 2 ans, on a beaucoup discuté avec des mots de ce passé. Et là, je voulais t'amener des photos pour que tu vois un peu cette petite fille qui est au centre.
Ouais, je regarde les photos parce que c'est pas ce qu'on imagine d'Istanbul d'aujourd'hui aussi. Non, parce que je pensais à cette charrette, à cette nature. À cette liberté-là, ma fille était bien sauvage. Elle a une jupette toute courte, hein, un peu décoiffée. C'est très bohème. Et c'est vrai que on s'est posé question si l'oubli, hein, qui normalement est vu dans les approches dans lesquelles je travaille, c'est connu comme une forme de refoulement, mécanisme de défense, faisant partie de systèmes de résistance qui pourraient faire éviter le contact avec quelque chose de douloureux, pourrait être aussi évitement du contact avec quelque chose du bon, qui n'est pas endeuillé, tu n'as pas fait le deuil, jusqu'au là, et qui était réactivé par la destruction de cet environnement-là, qui avait fait sortir aussi cette clivage qui avait eu lieu, que c'était finalement pas complètement intégré, ces deux parties de toi. Celui de passé et celle qui a fait sa vie ici, dans un autre environnement, et que tu as fait des allers-retours. ne s'était pas intégré. C'était pas paisible.
C'est tout un monde que j'ai dû volontairement oublier, que j'appelle le monde d'hier, comme le chef-d'œuvre de Stefan Zweig, car cette enfance cinématographique correspond à l'ancien monde. Elle représente une contrée perdue à jamais, une Turquie d'antan, mon Istanbul d'autrefois. Cette transformation sociétale, irréversible, a déclenché chez beaucoup d'entre nous une envie de retrouver le monde d'hier, ce paradis perdu. Sauf que le mien n'était pas totalement perdu puisqu'il a imprimé la pellicule. Entre 1968 et 1974, à partir de mes 3 ans, j'ai tourné 25 longs métrages, donc mon enfance est là. Je peux la revoir et la revivre si je retrouve ces vieux films.
Yoksa gözümü çıkarırdı.
Ya kalbine gelseydi, o zaman
ça c'est ma voix dans les films. Enfin, de la comédienne qui doublait ma voix.
Savaş bitti. Şimdi radyoyu açıyorum, eğlenelim.
Je rencontre une jeune femme turque, Denise, une doctorante qui travaille à Paris sur le cinéma turc, sur la figure de l'autre dans le cinéma. Je me mets à visionner certains de mes films avec elle.
Donc là, on voit la petite fille avec son grand-père qui joue à la trompette dans le salon, en fait, ils sont en train de discuter. Donc la petite fille, c'est évidemment toi.
Et donc, c'était une comédienne qui doublait ma voix. Ça fait partie des choses étranges de mon enfance. Quand je regarde ces films, j'entends toujours une voix qui n'est pas la mienne parce qu'on doublait tous les films à l'époque.
Oui, bah à l'époque, on doublait tout, hein, comme le cinéma italien d'ailleurs. Le cinéma turc doublait tous les acteurs aussi, pour plusieurs raisons d'ailleurs. D'abord comme ça, pendant le tournage, on n'était pas dérangé par les sons d'ambiance, par exemple par une voiture ou un avion qui passait. Et puis aussi, on employait des beaux visages, mais pour la voix, on prenait des comédiens qui avaient fait le conservatoire.
Et puis il y avait une autre raison qui était quand même très importante, c'est qu'on tournait tellement que les scénaristes écrivaient un peu au fur et à mesure, et puis après, en post-production, parfois, ils changeaient en fait les textes.
Oui.
Parce que c'est quand même une époque où le Bollywood de Bosphore produit 300 films par an.
C'est ce qui est énorme. C'est pour ça qu'on appelle aussi l'âge d'or du cinéma turc.
Et dedans, il y a des films de tout genre, zombies, science-fiction.
Musicaux, des films érotiques, il y avait même des pornos en fait à l'époque.
Ouais. Des vrais pornos.
Oui.
Mais c'était quand même dans l'ensemble des contes de fées. Voilà, films d'aventure, terreur, c'était moins important. Enfin, on était surtout sur des contes de fées.
İstesen bile yapamam bilirsin. Ablacığım benim. Şımarmadan hemen yata. İyi uykular bebeğim. Sen gidiyor musun hemen? İşime geç kalmamam lazım. Allah rahatlık versin yavrucuğum. Sana da ablacığım.
En début, il y avait la question de vulnérabilité, parce que tu étais dans un état de vulnérabilité aussi avec ce qui s'est passé à Istanbul. Mais aussi, finalement, l'accès à ta partie vivante. Et là, je sens que c'est très, très sensoriel. Du coup, on a pu faire de liens entre ce qui est aujourd'hui et ce qui est dans le passé, dans le goût, dans les odeurs. Et vraiment réintégrer ces connexions-là. Bien sûr, on va dans l'intégration, c'est ça qui rassure la santé mentale. que tu puisses porter des cultures, parce que forcément, tu changes quand tu arrives quelque part. On va dire, dans ce passé, il y avait beaucoup du bon. Donc, il y a vraiment une notion du perte. Et que voir cet environnement-là disparaître, ça a vraiment fait émerger quelque chose qui n'était pas vraiment résolu.
Et je commence à chercher ces films, ces extraits de films de mon enfance. Moi, j'avais jamais vu ces films. Hein. Et soudain, je me suis rendu compte que tout était tombé sur YouTube ou sur Dailymotion, 3-4 décennies plus tard, parce qu'enfin, ils avaient été digitalisés.
Oui, en fait, il y a eu des gens qui les ont mis en ligne de temps en temps sans l'autorisation même. Comme ça, on peut les voir aujourd'hui sur YouTube et Dailymotion facilement.
Et je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas que moi qui étais nostalgique de cette époque, de ce Moyen-Orient qui n'existe plus, de ces décors, parce que de temps en temps, on a quand même l'impression d'être non pas sur le Bosphore, mais sur la côte amalfitaine ou sur la côte d'Azur, parce que c'est les mêmes décors, les femmes ont les mêmes coiffures, les mêmes habits. Et ce Moyen-Orient laïque, je pense que ça a donné envie aux gens de revoir ces films.
Oh, ben futbolu çok severim. Yalnız sevmek değil, iyi de oynarım.
Benim düşüncelerim şöhretten daha mühim.
Et tous les films n'ont pas été mis sur YouTube. En fait, les producteurs les ont vendus au kilo, les bobines. Il y a aussi des pellicules qu'ils ont fait fondre.
C'est l'histoire de nitrate d'argent.
Oui, c'est ça. Et donc, il y a des distributeurs qui sont devenus très riches.
Et puis, tu vois, il y a aussi une chose, c'est qu'après le coup d'État de 1980, encore un coup d'État, puis les généraux qui ont fait disparaître certaines des bobines, c'était un peu la mort du cinéma turc.
Oui, c'est ça, et jusqu'à les années 90 d'ailleurs. Et c'est à partir de là que ça va commencer à renaître. Mais entre 80 et 90, c'était quand même une période très lente, un peu la mort de cinéma turc.
À ce moment précis de ma vie, où mon enfance me manque, Istanbul, la lumière du Bosphore, les épices de ma grand-mère, ma famille me manquent, ma langue, les rues dans lesquelles j'ai grandi, la musique, les odeurs de la rue, bref, tout me manque, je me mets à regarder des kilomètres de vieux films. Alo. Merhaba canım. Anneciğim
merhaba.
Senden bir ricam var.
Söyle.
Bizim orta odadaki kutu var ya hani içinde benim afişler, non, fotoğraflar. Non, non,
j'ai vu pour la première fois cet enfant que j'avais été.
Qu'est-ce que ça t'a fait?
J'étais bouleversée. Tu te rends compte tous ces personnages que je devenais le temps d'un film, tous ces univers que je traversais alors que j'étais enfant, tous ces costumes que je mettais, tous ces prénoms que je portais, toutes ces manières que j'adoptais pour pleurer, rire, marcher, bégayer, tousser, boiter.
J'imagine.
Maman, tu peux m'envoyer le contenu du coffre qui est dans la chambre bleue, s'il te plaît?
Quel coffre? Celui en bois?
Oui.
On l'a pas trié depuis des décennies, tu te rends pas compte?
J'ai vraiment envie de me plonger dans ces archives, s'il te plaît.
Tu vas nous faire le coup de l'écrivaine face à son musée intime? Trop cliché.
Non, s'il te plaît.
Et puis, ça va me coûter une fortune.
Merci, ma maman chérie.
Tout cet hiver 2016, je commence à écrire sur ça. Un roman, une première pièce de théâtre, puis une seconde pièce avec d'autres personnages, une fiction radiophonique, une performance. De manière frénétique et totalement indécise, pendant 2 ans, j'écris des centaines de pages et régulièrement je jette tout à la poubelle. Et j'attends le contenu de ce coffre qui doit arriver.
J'ai trouvé un billet d'avion qui coûte moins cher que le prix de l'envoi.
Quoi? Tu viens?
Oui, avec toute ton enfance dans ma valise.
T'es vraiment folle, maman, je t'adore.
Eşarp ve imprimi atölyelerinde çalışacak sanatçı kızlar aranmaktadır.
Maman arrive avec le colis énorme. Je l'ouvre. La première chose que je ressens, je ne sais pas si c'est ma mémoire olfactive qui me taquine, mais c'est un parfum familier. J'ai vraiment l'impression de sentir l'odeur des plateaux de cinéma de mon enfance. Un mélange de poussière, de câbles électriques, de colle, de bois et de mystior, le parfum de maman. Encore un tour que joue le cerveau, j'imagine.
Bon, donc c'est une affiche de film où on te voit assise sur les genoux d'une personne relativement âgée, un homme. Alors, est-ce que c'est ton père ou ton grand-père ? Et avec à côté, assis, un couple plus jeune, d'une jeune femme relativement jolie, avec une jupe courte. Et évidemment, sans doute son mari à côté, avec l'éternelle moustache et le costume trois pièces. Voilà. Donc Sedef est assise sur ses genoux, avec un regard espiègle, voire coquin, le doigt levé en l'air, comme si elle voulait dire quelque chose.
Alors ça, c'est mon premier film. J'ai 3 ans là-dedans. Donc ma mère qui est très malade.
C'est le tout premier que tu as tourné ?
C'est le tout premier que j'ai tourné. C'est les mémoires d'une femme défunte. Voilà. Donc en fait, au début du film, elle va ouvrir ce cahier en velours rouge et elle va nous raconter en flashback ce qui s'est passé.
Et tu te souviens de tous tes films comme ça ?
Ah, pas du tout, non. Et donc, mon grand-père, je dirige une bande de jeunes, je suis la chef de bande.
Harpten korkmam da, kaçmam da.
Kaçma.
Ben şimdi gösteririm onlara, onlar benden korksunlar.
Hadi aslanlar, göreyim sizi. Bugün büyük bir savaş başlayacak. Düşmanları yeneceğiz. Hazır mısınız?
Hazırız!
Hazır ol! Dikkat! Düşmana bütün gücümüzle saldıracağız, onları yeneceğiz.
İleri!
Alors voilà, là, c'est le cri de guerre et 2 bandes d'enfants qui s'affrontent.
Et une bande est dirigée du coup par toi,
ouais.
Et par une fille aussi qui est assez intéressante, je trouve.
Ouais.
Et l'autre bande par un petit garçon, tout blanc, tout petit aussi.
Ouais, on a des épées en bois. Les filles ont des fleurs dans les cheveux parce qu'on est quand même en 1972-73, donc on est en pleine période hippie. Donc toutes les filles ont des fleurs dans les cheveux avec des mini-jupes toutes.
Et c'est dans une sorte de forêt, c'est ça ? Enfin,
c'est les îles de Prince près d'Istanbul où on tournait pas mal de scènes de forêt. Et on a aussi des peintures de guerre sur le visage. Et donc on va s'affronter, voilà, on va se jeter, on va faire une bataille de tomates. Donc on va tous en sortir tout rouge de cette bataille. Et le chien qui aboie dans cette scène, en fait, c'est mon vrai chien. Et je ne savais pas ça avant de voir ce film, que mon vrai chien avait joué aussi dans les films. Ça fait partie des choses étranges, des surprises que j'ai eues en regardant ces films. Je suis submergée par des souvenirs que je croyais avoir oubliés. Et en plus, je me rends compte, en revoyant ces films, que j'avais associé des séquences que j'avais tournées à des moments de vie que j'avais vraiment vécus. Par exemple, il y a cette scène où je fais un spectacle d'école. Les enfants me tapent, je tombe à terre, je suis celle dont on ne veut pas. Tout le monde se moque de moi et mes parents applaudissent dans la salle. Je crois que j'en ai fait des cauchemars pendant des années. J'étais persuadée que c'était la vraie vie, alors que je viens de voir cette scène dans un film. Les parents qui applaudissaient dans la salle sont en vérité des acteurs qui jouaient mes parents. Et je vois plein de moments comme ça, mais l'un d'entre eux est inoubliable. Je suis dans un décor qui représente une maison chic. Apparemment, je joue la petite fille d'une famille riche. Un méchant met un revolver sur ma tempe et menace l'actrice qui joue ma mère, disant qu'il faut le suivre. Cut. Le plan d'après, nous sommes avec ma mère dans une immense voiture américaine. C'est le méchant qui la conduit. Sauf qu'une autre voiture nous suit. Scène de poursuite, montage assez cut, avec des plans entremêlés des deux voitures. Dans notre voiture, je suis sur la banquette arrière avec l'actrice qui joue ma mère, une immense star de l'époque. Et dans la voiture de police, il y a deux hommes. Et soudain, je vois qu'un des figurants qui joue les flics est mon père, mon vrai père dans la vie.
Bonjour, Sénèque.
Oui, bonjour. Écoute, je suis en train de regarder les vieux films. Dans un des films, je vois qu'un des figurants qui joue les flics, c'est papa, mon vrai père dans la vie, ton père. Et qu'est-ce qu'il fait, papa, dans ce film? Tu te rappelles de ça?
Oui, je me rappelle très bien. Et les scénaristes écrivaient au jour le jour, donc même parfois sur place. Donc le script arrivait sur le plateau au fur et à mesure, quoi. Et ce jour-là, au dernier moment, le scénariste a ajouté une scène de poursuite en bagnole entre flics et gang. Sauf qu'il n'avait pas prévu d'acteur pour jouer le rôle, quoi. Et comme papa était sur place, chic, avec son costard et tout, ils ont insisté tellement qu'il a dû accepter. Il ne faut pas que le tournage s'arrête, quoi. Sauf qu'après, il n'arrivait pas à monter les séquences. Donc, sans mon père, quoi, à cause de la continuité. Et tous les jours, on lui demandait de revenir. Et il a dû le faire ça plusieurs fois, quoi. Et comme ça, chaque fois, son rôle devenait de plus en plus important, tu sais, c'est
incroyable.
Pour finir, finalement, il a trouvé un vrai personnage, quoi. Et un jour, j'étais allé tout à fait par hasard au tournage, et je l'ai vu courir devant une dizaine de flics, et avec un revolver à la main, à la poursuite des délinquants. C'est incroyable.
C'est pas vrai. Et il n'a pas regretté après, quand le film est sorti en salle?
Ah si. Surtout quand son oncle, son grand-oncle s'est foutu de lui, le doyen de la famille, le grand industriel, le patron de la famille, à qui on attachait beaucoup d'importance. Le pire, c'est qu'il a dit à papa que le film avait perdu tout son sérieux quand papa a apparu dans flic.
Mon papa, je vois cet extrait le 7 janvier 2017. Mon père est mort le 7 janvier 2010. Je n'ai jamais cru aux signes du destin ou aux trucs ésotériques, mais là, j'avoue que j'étais particulièrement troublée.
C'est une affiche, une grande affiche rouge avec au second plan une tête d'un acteur turc qui ressemble à Clint Eastwood. Et au premier plan, une fille sexy, un peu James Bond girl.
Enfin, ils avaient tout le look américain, les mini-jupes, le...
T'as vu les coiffures, les
boules,
ouais, les yeux de biche, les nœuds dans les cheveux, ouais, totalement. C'était une esthétique des années 70 qu'on y a partout. Et là, il y a l'orchestre des enfants. Chacun des enfants joue d'un instrument. Et moi, je fais la star au milieu. Mon Dieu, quelle honte.
Et tu es en train de danser. Hein,
c'est ça. Et là, donc, c'est plus les couleurs, les tons de vert, vert d'eau, vert foncé qui dominent.
Et c'est ce qui est remarquable. Je trouve que chaque scène, enfin presque que chaque scène, on te voit avec un... différents costumes, différentes robes, différentes chaussures.
Ouais. Il y avait quand même tout un travail, effectivement, de costumes, de décors. Regarde les enfants, j'adore, ils sont tous tristes. Il y a à peu près, je sais pas, 25 enfants dans le salon, chacun avec son instrument.
Et là, ils t'écoutent, je crois, parce que t'es en train de chanter ou jouer, oui.
Ouais.
Tout je triste, chante. D'ailleurs.
Ah, si, moi aussi, je pouvais avoir une mère. Et celle qui joue ma mère joue du piano. Elle pleure derrière ses faux cils que j'adorais, ça me fascinait la couleur de maquillage, les faux cils et puis le parfum de cette poudre des actrices, ça me fascinait vraiment. Je sens encore cette odeur des plateaux.
On a aussi évoqué une idée qu'un enfant qui est mis en scène dans un rôle, c'est un travail d'adulte normalement, être comédien. Il est censé aussi quelque part de se aussi contrôler, de se servir de son propre mémoire affectif, de jouer avec ses émotions. Et là, chez toi, je pense qu'il y avait quelque chose que finalement, il y avait une forme de confusion aussi, t'étais vrai sur l'écran, et que ça a été ton enfance un peu sur le plan, je pense aussi. C'est que tu jouais des rôles, mais en fait, on voit bien que c'était toi et que ça peut être aussi, en quelque sorte, un peu désapproprier l'enfant d'une partie de l'enfant.
Bu evde en çok sevdiğim yer burası. Bu küçük salonda saatlerce otururum. Siz de oturmaz mısınız biraz?
Çok güzel. Kimin resmi bu?
Annemin.
Annenin mi?
Evet, dedem anlattı.
Kardeşim seni. Nasılsın, iyi misin? İyi olmanı Tanrı'dan dilerim. Beni soracak olursan çok iyiyim. İlk önce kendimi tanıtayım. Bir de sınıfından Necla Ergin.
Alors je suis une de vos admiratrices, tout ça, et puis ça continue en disant « ma chambre est tapissée de tes photos ». Mais tu es jeune, travaille et ne te détourne pas du droit chemin avec les gens du cinéma. Est-ce que tu as des bonnes notes, me demande-t-elle, cette admiratrice qui doit être plus âgée que moi.
Burdur'da vatanı görevi.
Burdur'da vatanı görevimi ve vazifemi yapmaktayım herhalde biraz geri. Kırmazsınız Sedef, senden bir ricam var. Bana bir adet fotoğraf göndermenizi rica ederim.
Alors, je vous ai vu au théâtre. Ne brisez pas le cœur d'un soldat. Envoyez une photo. Il fait son service militaire. Et la lettre est datée de 19 juillet 1971, lundi.
Bunu yazan hayranınız, topçu çavuşu, Yutan Gürkan.
Un autre jour, je tombe sur un film de Susan Avge, grande comédienne. Il formait un couple super glamour avec le scénariste le plus prolifique des années 70, Erdoğan Tunaş. Ils étaient aussi très drôles, constamment jaloux l'un de l'autre. Et ils étaient les grands amis de mes parents. Ils sortaient ensemble tous les soirs dans les tavernes grecques, dans les bars, dans les restaurants où venaient les gens de cinéma. C'était des fêtes joyeuses, les enfants s'endormaient sur des chaises et les adultes discutaient, chantaient, dansaient sur les tables, jusqu'à pas d'heure en buvant des verres de rakı et en mangeant des mezes arméniens. Et Suzanne était ma marraine, mais je ne l'ai pas vue depuis des décennies. Je commence à contacter des gens, je trouve son portable, je l'appelle. Elle a aujourd'hui 85 ans. Elle est si heureuse en entendant ma voix.
Allô.
Ah, ton homme. Nasılsın Sütanneciğim?
Canım kızım, bir tanem benim, bir tanem.
Ay.
Oh, quel bonheur d'entendre ta voix. Je vous adorais, toi et tes deux frères. Ils vont bien, tes frères?
Nous avons perdu mon frère aîné, Sally.
Non.
Si, si, malheureusement. Mais bon, Sinan, mon autre frère, va très bien.
Oh, ma chérie. Qu'est-ce que c'était bien ces années.
Oh, Suzanne, ma Suzanne, j'ai revu plein de tes films récemment.
Ah ?
Pas tous, évidemment, hein, y en a tellement.
300 367 films.
367, mais c'est incroyable. Je crois qu'aucune actrice de Hollywood ne peut rivaliser avec une filmographie pareille.
Ben, on tournait jour et nuit, ma CDF. Tu sais, un jour, j'ai tourné 3 films en même temps. Le matin, j'étais une intrigante blonde. Et l'après-midi, on a envoyé une voiture pour que j'aille à l'aéroport tourner une scène d'atterrissage là-bas. Et à 16h, je suis partie à la campagne pour tourner une brune qui montait à cheval. C'était pas facile. Et puis j'ai commencé si jeune. Tu te rends compte? Je ne savais même pas me maquiller, je ne savais pas m'habiller. Et puis on était si mal payés. J'achetais du tissu au marché.
Ah oui, tu cousais tes propres costumes. Et tu excellais dans les rôles de femme fatale, de blonde, scandaleuse, de séductrice, les sulfureuses. Tu étais magnifique.
Et tu vois, le public turc m'a aimé malgré ça. Mais même des gens très pieux, hein, des spectateurs du Sud-Est, le public traditionnel, tu sais. Le cinéma était un pont incroyable entre nous et tous ces milieux populaires.
Je sais. Tu sais, c'est encore vrai, hein. Ils t'adorent, les gens, quand je parle de toi.
Enfin, si j'avais tourné tout ça en Occident, j'aurais plein d'argent, ma CDF. Comment s'appelle ce réalisateur américain?
Qui ça?
Mais il a voulu m'amener aux États-Unis. Tu sais, celui qui est né ici, en Anatolie. Qui a fait America... Le tram, ouais. Oh là là là là, j'ai plus de mémoire.
Ah, et il y a 15 ans?
Mais oui, on devait travailler ensemble là-bas, mais ça s'est pas fait.
Oh, c'est vrai?
Enfin, laisse tomber, ma CDF. Tu sais, je t'adorais quand tu étais petite. Tu venais me faire des gros bisous pendant les tournages. Et tu te souviens de nos tables de raki avec tes parents? Ton père, il mesurait toujours les doses pour qu'on ne boive pas trop.
Ma mère boit encore tous les soirs son petit verre de raki, tu sais.
Ben moi aussi, qu'est-ce que tu crois? Ma CDF, tu sais quoi?
Ouais.
Il faut que je te raconte mes souvenirs et que tu les écrives. Et il faut que je te vois au moins une fois avant de partir dans l'autre monde, moi aussi. Car sinon, je mourrai les yeux ouverts.
Je lui promets qu'un jour j'irai la voir et que j'écrirai ses mémoires. Je ne sais pas si je pourrai tenir ma promesse, mais je sais que ça lui fait plaisir d'entendre ça. Suzanne a fait rêver des générations entières de jeunes hommes avec sa blondeur, ses nuisettes à la Marilyn et son regard de braise, tout en s'occupant de manière très affectueuse de moi sur les plateaux de tournage. Plus tard, elle a continué sa carrière de manière brillante. Elle a aussi tourné dans des films d'auteur, reçu des prix.
İçmeye başlamışsın gene. Vakitsiz değil mi? Hadi gel yatırayım seni.
Ölmüş adamlar için günün her saati bir.
Boş versen patrona. Adam yerine mi koyuyorsun onu?
Aldırdım yoksa.
Alors là, on voit une scène avec la fameuse Suzanne Avdje, donc...
Ma marraine.
Oui, du coup, ta marraine, un peu la scandaleuse, la dangereuse du cinéma turc. Là, on la voit descendre en fait les escaliers, rentrer dans la salle avec Cüneyt Arkın, du coup, c'est une scène avec lui. Là, on la voit toute blonde, avec une robe...
Espèce de déshabillée nuisette, oui. Et lui, il s'est fait quitter par la bien-aimée. Du coup, il est en train de picoler tout seul, le beau gosse, dans la chambre.
Un peu bourré aussi, d'ailleurs.
Voilà, il a un peu trop bu. Et du coup, elle va venir le consoler. Parce que c'est ça la femme fatale, en fait, qui va profiter de l'absence de l'autre pour prendre la place.
C'est ça, elle représente cette femme de mauvaise foi, cette femme mal en fait. Enfin, là, on la voit par exemple danseuse orientale.
Et là, comme ça, les mains qui sont comme des serpents, etc. Il y a quelque chose de... Oui, effectivement, le serpent qui va mordre.
rahatsız etmiyorum ya. Uyuyamadım. Uykum kaçtı.
Bizimkiler uykumu zaten. Her karanlık geçen gecem duygularımı biraz daha karartıyor.
Dertlerine ortak olmak.
Regarde là comment c'est magnifiquement sculpté la lumière. Le noir et blanc est magnifique. Elle arrive avec une clope au bec et avec dans la lumière noir et blanc, cette fumée comme ça, dans laquelle elle arrive, et elle s'assoit au bord du lit. Lui, il est couché.
Donc c'est une grande affiche encore, un peu rouge, et le titre c'est Souya du Chen Ayal, donc le rêve qui tombe à l'eau. Et en fait, c'est assez marrant, c'est parce qu'il y a deux femmes nues, en énorme, un autre mec torse nu, quelqu'un avec un couteau, et les affiches comme ça, elles étaient en Turquie affichées avec des femmes nues, ça choquait pas.
Ouais. C'était une époque où la nudité n'était pas comme aujourd'hui. Bon, il y avait des parties de la Turquie où c'était toujours très conservatrice, mais dans l'ensemble, sincèrement, on regarde sur toutes les affiches, il y a des femmes quand même qui montrent soit leur sein, soit leur ventre, soit leurs jambes.
Değerli dinleyicilerim, sizlere hakiki sevenlere ithaf ettiğim bir şarkıyı sunuyorum. Çok görmeyin ne olur, bırakın seviyorum. Dünyalar sizin olsun, ben onu istiyorum.
Çok görmeyin ne olur, bırakın seviyorum. Çok görmeyin ne olur, bırakın seviyorum. Dünyalar sizin olsun, ben onu istiyorum. Dünyalar sizin olsun, ben onu istiyorum.
Les figures féminines sont vraiment, c'est ce qui me frappe le plus en fait quand je regarde ces films de ces années-là. Elles ont une telle liberté, une telle beauté.
Oui, absolument. Et en plus, en fait, elles n'étaient pas uniquement des actrices, mais aussi très souvent des décideuses en fait dans des films. Elles s'improvisaient productrices, organisatrices, communicatrices. Et quelques-unes étaient bookées plusieurs années à l'avance.
Oui, elles avaient beaucoup de pouvoir, surtout Türkan Şoray, Filiz Akın. Enfin, si elles disaient oui, le film se faisait, en fait, c'est ça. Et ça nous en dit beaucoup aussi sur la société de l'époque. Moi, j'ai eu la chance de tourner avec beaucoup d'entre elles, et particulièrement donc celles qui étaient les divas. Et j'ai vu à quel point elles étaient aimées. Mais encore aujourd'hui, quand elles ont maintenant... Enfin, il y en a qui ont 70 ans, d'autres qui sont beaucoup plus âgées. Ou quand elles arrivent quelque part encore, c'est l'émeute. Enfin, tout le monde veut les toucher.
Oui, bah, c'était vraiment le star system à l'époque, calqué sur le modèle hollywoodien. Parce qu'il faut bien le dire, il y avait deux types de figures féminines principaux à l'époque. Celles cantonnées soit au rôle des femmes fatales, et les jeunes premières, pures, avec une image de cette femme innocente, de temps en temps femme victime. Donc il y avait quand même une grande écart entre ces deux représentations de femmes.
Et celles qui jouaient les méchantes se faisaient huer lors des projections, jetaient des canettes à l'écran, leur crachaient dessus dans la rue. C'était quand même assez étonnant.
Mehmet'le sonra hesaplaşırız. Bak, kim geldi? O kumru mu? Evet Berna. Berna teyzene hoş geldin desene.
Je me rappelle. Bribes de souvenirs, tournage, répétition. Je me rappelle que je manquais l'école pour tourner. Je me souviens de la délicieuse folie de tous ces gens de cinéma, de leur irrévérence, de leur débrouillardise, leur démesure. En regardant ces documents, je me souviens parfois d'un jouet, d'une robe, d'une paire de patins à roulettes et des scènes. Des séquences comme des images d'un livre pour enfants dont je tournerai les pages.
Hadi Bernacığım de bana. Sonra darılırım. Hemen giderim. Bacım. Bacım değil, Bernacığım.
Antalya Tiyatro ve Film Festivali'nin açılışı münasebetiyle tertiplenen baloya şeref vermenizi saygılarıyla rica ederler.
Alors c'est le maire d'Antalya
71.
Qui m'écrit, enfin qui m'envoie une invitation pour que j'honore l'inauguration du festival d'Antalya, qui est un peu notre canne à nous en fait. C'était le grand festival de cinéma turc. incroyable. Elle a fait, elle a découpé des petits cœurs dans un carton, elle a mis des nœuds, enfin elle a dû passer une heure à le faire. Elle a fait aussi des dessins, elle s'appelle Yasemin, et elle dit, en fait je n'y croyais pas du tout, et finalement tu m'as envoyé une photo, tu m'as rendue très heureuse, mon rêve s'est réalisé, et j'espère que tu me referas plaisir en signant dans ces cœurs et me les renvoyant. Allô, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Mais écoutez, ça va assez bien pour 81 ans.
81 ans déjà. Cengiz Tacar est l'un des plus grands chefs opérateurs du cinéma turc de cette époque. Il se connaissait bien avec mon père. Aujourd'hui, il est à Nice. Et il a tourné une quarantaine de films comme chef opérateur et il a eu deux fois le prix du meilleur directeur de la photo.
À notre époque, le plus grand problème, c'était très difficile d'importer du matériel. Moi, j'ai importé vraiment très, très difficilement le premier zoom ingénieux 25-250. Quand même, c'était 30 000 francs, 35 000 francs. Et aussi, le choix de la pellicule. Mmh. Et on utilisait de la pellicule de vraiment bas qualité de l'Allemagne de l'Est et tout. Tout le matériel, c'était extrêmement difficile. Mais malgré tout ça, on s'est débrouillé parce que le cinéma turc, c'est un vrai compagnonnage. Mmh. Il a un énorme respect l'un à l'autre et c'est très hiérarchisé. Et donc, on travaillait vraiment la main dans la main et soit les actrices, soit les acteurs. L'équipe, c'était formidable.
Et les actrices, ces magnifiques actrices des années 70, très cinégéniques. Vous avez travaillé avec toutes les grandes divas.
J'ai eu la chance. Oui, j'ai eu la chance de travailler avec vraiment la plupart de ces magnifiques dames. Elles étaient de différents milieux. Il y avait très peu d'actrices qui venaient de conservatoires. Mais une fois rentrées dans le cinéma, elles étaient respectées. Et elle faisait vraiment énormément d'efforts pour apprendre, pour travailler et tout. Et toujours beaucoup de respect, même aux plus petits figurants et jusqu'à le réalisateur. Ah, c'était des princesses, hein. Vraiment, c'était des princesses. Il y avait une distance, il y avait beaucoup, beaucoup de respect. Et les tournages étaient toujours une sorte de fête.
Alo, Rıza Beyefendiciğim, siz misiniz? Bir akordeoncu kadınla bir darbuka istiyor musunuz? Evet, İzmir'e gidebiliriz. Oo, siz zahmet etmeyin. Biz yarın sabah doğruca vapura gideriz. Teşekkürler canım.
Ya sen karı mısın be?
Hadi lan doğru vapura, vapura.
Vapura, vapura.
Alors là, c'est un film que j'adore.
Alors là, en effet, on a certains lemcho.
Certains lemcho, version kebab, quoi.
Oui, version turque, voilà. Donc là, dans cette scène, on voit deux hommes habillés en femmes, de travestis, en fait, apparaissent, avec une maquillage assez exagéré, vêtements drôles, donc elles ont du mal à marcher. Elles portent des valises.
Ouais. Et elles vont monter, enfin, ils vont monter sur un bateau de croisière, comme Jack Lemmon et Tony Curtis dans le film original. En fait, c'est imité plan par plan ce film. Mais c'est à la turque, ce bateau de croisière. On les voit monter avec les robes en soie et leurs jambes poilues qui sortent des robes en soie avec des chapeaux à l'anglaise très chic. Ils vont rencontrer donc cette Türkan Şoray qui est la diva brune
du cinéma turc qui sera aussi sur le bateau, qui est là pour chercher en fait un mari riche comme dans le film original.
Oui, et là il faut dire qu'elle va imiter ouvertement Marilyn Monroe.
Oui. Elle, c'est une brune, mais elle va imiter parce que, en fait, on voit bien qu'elle imitait vraiment les mimiques de Marilyn Monroe. Le producteur a dû lui dire « fais comme elle » et elle a dû vraiment travailler. Et on a l'impression que c'est Marilyn avec la manière de bouder, de mordre ses lèvres, de regarder, de mettre le doigt dans la bouche et tout. C'est la Marilyn, sauf que c'est une Marilyn brune et orientale.
Après les années 80, on commence à parler des questions qui étaient assez taboues dans la société, donc des travestis, LGBTI, homosexuels, en fait, qui commencent à apparaître en fait dans le cinéma.
Parce qu'avant, en fait, il y a ces deux figures qu'on disait pas LGBT à l'époque, ça vient de la grande tradition ottomane, ces zennés, c'est-à-dire c'est des drag queens qu'on appelait pas encore drag queens, qui étaient vraiment des grandes stars de la société turque, mais qui étaient un peu des caricatures, des grandes folles, etc. Après, arrivent des vrais personnages avec toute leur profondeur.
C'est travestis. Ça, tu parlais de Bülent Ersoy.
Bien sûr, oui. Qui étaient les divas de l'époque.
Mais à l'époque, ils jouaient dans des caractères de jeunes premiers.
Alors, oui. C'est-à-dire qu'avant qu'on accepte leur identité sexuelle, pour Zeki Müller, travesti, et pour Bülent Ersoy, une vraie trans, parce que elle a eu quand même ses traitements hormonaux, sa vaginoplastie, elle est devenue une vraie femme. Mais avant, comme la société, le public les adorait, il fallait les mettre dans les films. Mais on ne pouvait pas les accepter en tant que travestis ou transsexuels, donc on leur faisait jouer des rôles d'hommes, donc on les voyait très très très féminins, et en même temps, en face, il y avait une jeune première avec qui ils se mariaient.
Oui, c'est ça, ça se collait pas en fait.
On voit maman avec qui est très petite, je sais pas quel âge t'as là.
5-6 ans.
Et ce qui est marrant, c'est qu'elle a une tenue de danseuse du ventre. Il y a d'autres enfants autour avec des tenues, des accordéons, mais tous avec des tenues assez traditionnelles turques, mais c'est marrant de le voir sur des petits enfants comme ça.
À force de me voir dans tous ces films, regarder ces articles de presse sur moi, ces photos, je me demande, qu'est-ce que ça m'a fait de jouer toutes ces histoires ? D'être admirée par les adultes et ne pas trouver ma place parmi les enfants de mon âge. Je n'en veux pas à mes parents. Ils n'étaient pas du genre à m'amener à des auditions, à me faire passer des castings, etc. C'était plutôt malgré eux. Ils appartenaient à une bande d'amis un peu bohème. Il y avait beaucoup d'artistes parmi eux. Et un ami acteur avait dit un soir, « Sedef, elle a l'air douée. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'elle joue au théâtre ?» Ils ont dit oui, et ça a commencé comme ça. Mais ils surveillaient. Ils venaient toujours au tournage. Ils ne m'ont pas livrée à moi-même.
C'est sans doute compliqué pour Sedef comme histoire et vivre avec. Alors même si c'était une situation sans doute un peu particulière en Turquie. Voilà, je suis assez distant de ça, assez éloigné de ça. Mais visiblement, je comprends que c'est pas si simple à assumer. Alors évidemment, le contexte d'aujourd'hui, de la Turquie actuelle, tout ça rajoute une difficulté supplémentaire. Voilà, mais c'était une belle histoire dans les années 70. Sans doute traitée de manière plus légère que ce qu'on aurait pu connaître si ça avait été la même situation dans d'autres pays. Parce qu'il y avait une espèce de bienveillance en Turquie. Il y avait encore récemment une grande bienveillance en Turquie. Et j'imagine que ça a dû être le cas dans ces situations-là.
Là, on doit quand même rendre hommage à la première actrice musulmane, celle qui a ouvert la voie pour toutes les actrices du monde arabo-musulman, Afife. Je lui avais écrit une lettre, et justement, elle avait été publiée dans le journal du Festival d'Avignon, lors de cette édition 2016, celle qui restera pour moi le festival où tout a commencé, où j'ai appris le coup d'État.
La la.
Cher Afife, vous êtes né en 1902 à Constantinople dans une drôle d'époque. L'Empire ottoman se décomposait, les rues se remplissaient de plus en plus de sans-logis, incendies et maladies ravageaient la ville. Mais comme toujours, il y avait des gens assez fous pour faire du théâtre dans cette atmosphère chaotique. Depuis peu, les chrétiennes pouvaient faire leur apparition dans les rôles féminins, jusque-là tenus par des hommes, alors qu'il était encore impensable pour une femme musulmane d'y songer. Et vous, chère Afife, vous avez été têtue. Dès que vous avez eu 18 ans, vous avez pris des cours, assisté à toutes les répétitions d'une troupe istanbouliote dans l'espoir de monter sur scène. Puis, comme dans un conte de fées, un soir de 1920, une actrice arménienne s'est absentée. Et vous avez réussi à convaincre tout le monde que vous pourriez prendre sa place le temps d'une représentation. Bien sûr, la police a fait une descente à la fin du spectacle, mais vous avez recommencé. Vous avez fugué par les coulisses de nombreuses fois, vous avez été emprisonné, insulté, traité de prostituée, vous avez séjourné dans des hôpitaux psychiatriques, votre famille vous a mis à la porte, vous avez changé de nom, de troupe, de ville, vous avez connu la misère, la maladie, la dépendance, mais vous n'avez jamais renoncé à votre amour du théâtre. Cher Afife, vous seriez affligé de voir qu'un siècle plus tard, les mêmes esprits barbares essaye d'effacer le corps de la femme de l'espace public, et ce, non seulement à Istanbul, mais partout dans le monde. Merci d'avoir montré la voie à Afife Jale.
Eşarp ve emprime atölyelerinde çalışacak sanatçı kızlar aranmakta.
Moi, je n'ai pas joué à la poupée, je n'ai pas été scout, je n'ai pas fait de balade dans la nature, je suis incapable de poser un nom sur la moindre plante, mais je crois que ça m'est égal après tout, car moi, j'ai traversé plein de faux mondes splendides en compagnie d'adultes totalement dingues, irresponsables, drôles et délicieux. J'ai fait partie d'un monde bariolé, joyeux, singulier, j'ai traversé ces mélodrames psychédéliques. J'ai promené mon enfance dans cet univers sur lequel, aujourd'hui, je pose un regard plein d'affection. Ce coup d'état raté a changé la vie de beaucoup de gens. Je crois que, comme tous les événements politiques majeurs, il a déclenché chez beaucoup d'entre nous cette envie de retrouver le monde d'hier. Cette expérience, après tout, le fait d'écrire pour l'émission L'Expérience m'a réconcilié, je crois, avec mon expérience, peut-être même avec mon enfance.
Enfant star à Istanbulwood avec Selim Alna Dufreteux, Sedef Ecer, Ulser Ecer, Catherine Salvia, Barbara Konieczna, Denise Ingeogu, Henri Alna Dufreté, Ervan Alna Dufreté, Sinan Ecer, Susan Akçu et Cengiz Tacer. Coordination, Aurélie Charon. Attachée de production, Inès Duperron. Prise de son, Marie Le Peintre, Romain Lequins, Bruno Mourlan et Jean-Michel Bernon. Mixage, Guillaume Ledu. Une création sonore de Sedef Ecer, réalisée par Céline Ters.
Toutes les expériences sont à retrouver sur le site de France Culture. Dimanche prochain, ce sera le journal très intime d'une correctrice par Pauline Verdusier, dont le petit boulot est d'éditer les lettres érotiques des lecteurs du magazine de charme L'Union, créé en 1972. Et chaque semaine, les étudiants de l'atelier de Johann Sfar des Beaux-Arts de Paris proposent une illustration inspirée de leur écoute pour notre site internet. En attendant, il est minuit, vous écoutez France Culture, l'expérience et la création, ça continue.